إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل بعون الله تبارك وتعالى قراءة كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله جل جلاله. وقد توقفنا عند الحادث السادس وأربعين، السادس وأربعين. قال الإمام البخاري: حدثنا أصحابنا، أخنا نعم،
حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر القضاء،
عمر
القضاء.
نعم. طيب، donc on s'est arrêté la fois dernière sur le hadith numéro 46, toujours dans le chapitre concernant est-ce que on peut appeler le parent par sa kunya. طيب. Donc il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah: haddathana ashabuna, donc nous ashab, d'accord, nos compagnons nous ont rapporté, nous ont dit. C'est qui ici les ashab? De qui il parle? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ahsant. Ça veut dire غير واحد من شيوخه. يعني les enseignants de l'imam al-Bukhari, les shuyukh de l'imam al-Bukhari. Donc quand al-Bukhari il dit haddathana ashabuna, ça veut dire nos enseignants nous ont rapporté, nous ont dit. Voyez? Selon Waqi', selon Soufiane, donc ici, Allahu alam Soufiane al-Thawri. Le problème c'est que lorsque on n'a que le prénom Soufiane, de qui, de quel Soufiane on parle? Est-ce qu'on parle de Soufiane al-Thawri ou Soufiane al-Uyayna? Parce que les deux, ils se trouvent au même niveau dans la chaîne de transmission. Ils ont vécu à la même époque. Donc après, yani, les muhaddithoun, bien sûr, font des recherches. Et il se peut qu'ils vont regarder, par exemple, le rapporteur qui a rapporté de Soufiane, ici, Waqi'. Donc s'ils voient que Waqi' ne peut rapporter que de Soufiane al-Thawri, mathalan, ils vont dire c'est sûr c'est al-Thawri, parce qu'il a jamais étudié auprès de Nu'ayna mathalan. Voyez? Mais c'est juste un exemple. Et là concernant cette chaîne là, je ne sais pas si c'est al-Thawri ou Ibn Uyayna. Mais en vérité, est-ce que ça va rendre la chaîne de narration faible, ou est-ce que tu peux l'accepter dans tous les cas? Hein? Pour quelle raison?
Parce que les deux, ils sont très
fiables. Que ce soit Thawri ou que ce soit Ibn Uyayna, en vérité, les deux, ils sont fiables. Et les hadiths qu'il rapporte sont acceptés, alhamdoulilah. Donc ça ne change pas grand-chose en vérité. Voyez. Selon Abdullah ibn Dinar, selon Ibn Umara, qui a dit, mais Abu Hafs ibn Umar, donc son père, Abu Hafs Umar, qada, donc était un juge, yani, avait comme fonction, bien sûr, le jugement. Il était juge. Taïb. ما يؤخذ من الحديثين أي من الحديث الخامس وأربعين والسادس وأربعين أخذنا أولا بيان أن المرأة له أن ينادي أو يذكر أباه بكنيته فذهب الشيخ رسلان حفظه الله تعالى إلى جواز ماذا نداء الأب بكنيته أو ذكر الأب بكنيته وأن فيه نوعا من الإكرام لأبيه وتأدب معه إذ لم يذكره باسمه كأي شخص آخر يناديه أو يذكره باسمه سكونتير des deux hadiths précédents, donc le 45 et le 46. Le 45, c'était le hadith concernant Ibn Umar qui avait interpellé son père et qui lui avait dit « As-salatu ya Aba Abdelrahman ». Donc il avait appelé son père, Afwan Salim, le fils d'Ibn Umar, Salim, avait appelé son père par sa kunya. Il l'a appelé par Aba Abdelrahman. Donc, on tire de ces deux hadiths que la personne a le droit soit d'appeler ou soit d'évoquer, de mentionner son père par sa kunya. Par sa kunya. Vous voyez ? Par contre, par le nom, là. Par son prénom, que tu appelles ton père par son prénom, là. D'accord ? Même la kunya, comme on avait dit la semaine dernière, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il voit qu'il faut éviter aussi, même la kunya. D'accord ? Même la kunya, il faut éviter quand tu appelles ton père. Il vaudra mieux utiliser yani, au papa, au abi, hein, au walidi. Parce qu'il dit ici, le fait d'utiliser la kunya, c'est quoi une kunya, Ikhwa? Annous, c'est quoi une kunya? Par exemple, Abu Anas. Voilà. Quoi encore? Hein? Il n'y a que des Abu. On ne peut pas utiliser autre chose que Abu. Eh oui, Umm Abdillah. Quoi encore? Ibn, donc le Cheikh Raslan. Il a fait rentrer aussi tout ce qui est fils de Ibn Fulan dans les kunyettes. Il a fait rentrer quoi encore? Donc Abu, Ummu, Ibn, Bintu, d'accord, fille de. Il a même fait rentrer Ammu, oncle de, Ammu, Khal, Amma, Khala. D'accord? Tout ça c'est des kunya, inshallah ta'ala. Et donc lorsque tu vas mentionner quelqu'un, donc ici notamment ton parent par sa kunya, il y a ici une forme de respect, une forme de respect, une forme de d'honorification à son égard, car tu ne les as pas appelés par leur prénom comme tu appellerais quelqu'un d'autre, un ami ou, d'accord, une personne yani, qui n'est pas proche de toi, que tu vas appeler par son prénom. Ya Fulan, d'accord, Ya Abdallah, Ya Samiru, Ya Bilal. Donc le fait que tu ne les appelles pas par leur prénom, mais plutôt par leur kunya, il y a une forme de respect. Une forme de respect et de bonne éducation. Naam. Athani, la budda min al-ijtihad.
في الإتيان ببر الوالدين والبعد عن عقوقهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى عمر رضي الله عنه ووصى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقال يأتي عليكم أويس ابن عامر رحمه الله مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. والله قصة عظيمة جدا. يقول هذا رواه مسلم في الصحيح. Donc écoutez bien les frères ce hadith. Donc on tire des hadiths, il dit le cheikh, le fait que il faut impérativement que l'on fasse des efforts pour être bienfaisant et faire preuve de bienfaisance et de bonté envers les deux parents, et s'efforcer de nous éloigner au maximum de leur faire du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes fait des recommandations à Omar, mais aussi à tous les sahaba, radiyallahu anhum. Il a dit notamment, يأتي عليكم أويس ابن عامر. Viendra à vous un certain Uwais ibn Amir, ma amdad ahli al-Yaman, avec des groupes de gens venant du Yémen. Donc ici le terme amdad désigne des gens qui viennent pour fortifier l'armée musulmane. D'accord, amdad min al-madad. D'accord, l'aide, l'appui. Donc ces gens-là sont venus avec Uwais du Yémen. Puis il dit min muradin thumma min qaran. Donc là c'est les tribus dont Uwais est originaire, la tribu de Murad puis de Qaran. Dans la tribu de Murad, il y a plusieurs clans. Lui il vient du clan de Qaran. D'accord? Donc là lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ici, Uwais, il ne le connaissait pas encore, sahaba. Il leur a annoncé qu'un jour il va venir un homme qui s'appelle Uwais ibn Amir. Et cet homme-là n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit kana bihi barasun. Il avait la lèpre. Puis il a guéri, sauf l'équivalent d'un dirham. Donc vous savez, la lèpre, c'est quoi? C'est une maladie de la peau. Hein? Donc il a été guéri, bi'idhnillah, sauf une partie de sa peau de la taille d'un dirham. Donc le ulama, certains disent à peu près 3 cm de diamètre. 3 cm de diamètre. Et ce Uwais, rahimahullah, il avait une mère envers qui il était bienveillant. D'accord? Donc là, la précision elle est importante ici. Ce Uwais, il avait une mère vers qui il était bienveillant. Puis il dit, لو أقسم على الله لأبره. Ce Uwais, lorsqu'il jurait sur Allah sur quelque chose, Allah Jalla wa Ala, il réalisait son vœu. Il réalisait son serment. Mathalan, il disait, par Allah, il va arriver ceci et cela. Ou par Allah, tu auras ceci et cela. Ou par Allah, je vais faire ceci et cela. La chose se réalisait à chaque fois. Hein? Puis il dit, donc là il parle à qui? Il parle à Omar, radiallahu anhu. Il lui dit, et si tu peux faire qu'il demande pardon pour toi, eh bien fais-le. C'est-à-dire le jour où tu le croiseras, bi'idhnillah, demande-lui qu'il demande pardon à Allah pour toi. C'est Omar, le deuxième calife de l'islam. Hein? Et bien malgré ça, le prophète lui a recommandé de demander à Uwais de lui demander pardon. Enfin, demander pardon à Allah pour lui. Là, on voit vraiment la valeur de ce Uwais. Donc c'était yani, un tabi'i. Puisqu'il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a rencontré les sahaba. Donc ce hadith, rapporté par Muslim dans le Sahih, il est authentique. Et donc on voit aussi l'un des signes de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il a annoncé le futur, ce qui allait se produire dans le futur. Voyez. إذن قوله مع أمداد أهل اليمن يقول الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو واحدهم مدد. Donc comme on a dit, le terme Amdad, donc ces gens-là venaient du Yémen, c'est-à-dire un groupe de gens qui sont venus épauler l'armée musulmane. D'accord, à ce moment-là. Et donc ça s'est passé lors du califat de Omar radiyallahu anhu. Donc on dit des amdad et on dit amadad. Amadad, des amdad au pluriel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux sahaba qu'il demande à cet homme-là, à cet homme pieux et vertueux, Uwais ibn Amir, et bien qu'ils demandent pardon à Allah pour eux. فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَهِيَا رِوَايَةٌ عِنْدَ مُسْلِمْ. Naam. Puis dans une version il a dit, et ordonnez-lui de demander pardon pour vous, et il demandera pardon pour vous, afin qu'il demande pardon pour vous. وكان به برص فبرأ منه إلا موضع الدرهم وهو الذي دعا ربه. نعم يعني من الذي دعا الله جل وعلا ليشفيه؟ هو نفسه, هو نفسه هو الذي دعا ربه أن يبقي عليه ذلك الموضع. الله أكبر. حتى لا ينسى ما كان فيه من المرض قبل وَلِكَيْ يَنْظُرَ لِيَعْرِفَ عَطَاءَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ لَهُ. Regardez ici qu'est-ce qu'il dit. Le prophète, il a dit quoi? Il a dit que Uwais était atteint de la lèpre, puis il a été guéri. Toute sa peau a été guérie, sauf la taille d'un dirham. D'accord? Qui est encore touché par la lèpre. Il dit ici, Cheikh Raslan, hafidhahullah, que c'est Uwais lui-même qui a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui laisser une partie de sa peau malade. Subhanallah, pourquoi? Pourquoi il demande à Allah qu'Allah lui laisse hein, la taille d'un dirham atteint par la lèpre? Il dit le shaykh, afin qu'il n'oublie pas. Afin qu'il n'oublie pas l'état dans lequel il était. Parce que l'insan, hein, yensa. L'être humain, il oublie. Hier, il était à l'hôpital, allongé. Le lendemain, il court. Il a oublié, khlas. Et il retourne dans ses péchés. Il retourne dans ses péchés, etc. Et, hein? Alors que quand il était à l'hôpital, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Le jour où Allah, Jalla wa'ala, il a guéri, il a tout oublié. Il a oublié Allah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au Waïs? Regardez, subhanallah. Il a demandé à Allah qu'il lui laisse quand même sur la peau un peu de lèpre. Un peu de lèpre. Afin qu'il n'oublie pas. Qu'il se souvienne. Et afin qu'il reconnaisse toute sa vie le don qu'Allah Jalla wa'ala lui a fait. Et ce bienfait-là qui est la guérison. Et la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة فذكرها له أم وهو بها بر. نعم, لأنها مهمة, أي تلك الغسلة مهمة, بل لا أهم منها, بل لا أهم منها. Et il a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait se dire, mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre le fait qu'il était bienveillant envers sa mère et le fait que yani, il rencontrera un jour Omar et que Omar devra lui demander de demander pardon à Allah pour lui? Il dit ici qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a volontairement choisi cette race-là, cette qualité, parmi ses nombreuses qualités. Mais il a choisi celle-là, qui est qu'il était bienfaisant, bienveillant, obéissant envers sa mère. Car c'est une qualité, il dit, très importante. Plus que ça, il n'y a pas plus important que cette qualité-là. Allahu Akbar. Tu peux avoir toutes les qualités du monde. La générosité envers les pauvres. Hein? La loyauté envers tes amis. Le bon comportement envers ton épouse. Être un bon père envers tes enfants. Mais que tu délaisses tes parents, tu délaisses la bienfaisance envers tes parents, tu as délaissé le plus important. Tu as délaissé le plus important pour ce qui est moins important. Subhanallah. لما جاء أويس ولقيه عمر رضي الله عنه قال أنت أويس بن عامر سأله هل أنت أويس بن عامر لأن عمر لم يره من قبل قال نعم قال من مراد ثم من قرن أم من قبيلة كذا وكذا قال نعم قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم وزاد قال لك والدة قال نعم فقاله عمر وعمر هو عمر يقول الشيخ عمر هو عمر بن الخطاب فاستغفر لي فاستغفر لي فيستغفر لعمر radiyallahu anhu. Donc là on va lire le reste du hadith, une partie. Lorsque Uwais ibn Amir a croisé donc Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit Omar? Donc Omar, bien sûr, il n'a pas oublié le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et en fait il n'arrêtait pas de guetter. Il n'arrêtait pas d'attendre le jour où il allait rencontrer cet homme-là. À chaque fois qu'un groupe venait du Yémen, afin de fortifier l'armée musulmane, yani sûrement, il n'arrêtait pas de demander à chaque fois, comment tu t'appelles, d'où tu viens, est-ce que tu as une maman, est-ce que tu as une mère, est-ce que si, est-ce que tu avais la lèpre. Donc, alhamdoulilah, il est tombé sur la bonne personne. Il lui a dit, est-ce que c'est toi ou Uwais ibn Amr? Il a dit, oui, c'est moi. Mais bon, c'est peu que ce soit hein, plusieurs personnes qui portent le même prénom et la même kunya, on ne sait jamais. Il lui a dit, est-ce que tu fais partie de la tribu de Mourad et de Qaran? Il a dit oui. Mais allez, je l'ai demandé encore, on ne sait jamais. Il lui a dit, est-ce que tu avais la lèpre, puis tu as été guéri et il te reste encore un dirham sur ta peau qui est lépreux? Il a dit oui. Est-ce que tu avais une mère? Il a dit oui. La khlas, il était sûr. C'est bon. Tampon est validé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit le shir. Et Omar, c'est Omar. Omar, c'est Omar. D'accord? Après Abu Bakr, c'est Omar. Vous voyez, parmi les sahaba, le meilleur sahaba, au niveau du mérite, c'est après Abu Bakr, c'est Omar. Mais malgré ça, subhanallah, regardez la modestie. La modestie de Omar. Il a dit à Uwais, demande pardon pour moi. Demande pardon pour moi. Il a répété deux fois et il a demandé pardon pour Omar radiyallahu anhu. Ça ne veut pas dire que Uwais est meilleur que Omar. Il n'y a pas de doute que Omar est meilleur que Uwais. Il n'y a pas de doute que les quatre premiers califes soient les meilleurs sahaba. Mais ça montre aussi la modestie de Omar. Ça montre la modestie de Omar et ça montre aussi cette qualité-là qu'avait Uwais, qui résultait notamment de du comportement qu'il avait avec sa mère. Du comportement qu'il avait avec sa mère, subhanallah. Non. Donc regardez, on tire du hadith aussi que lorsque tu te comportes correctement et bien avec tes parents, eh bien cela fait que Allah Jalla wa Ala accepte tes du'as. Regardez, subhanallah, cet homme-là, à chaque fois qu'il jurait sur Allah, la chose se réalisait. Il a demandé à Allah qu'il le guérisse, Allah il a guéri. Il a demandé à Allah qu'Allah il lui laisse un dirham. Allah il a laissé un dirham atteint par la lèpre. Vous voyez ? Donc cela doit nous encourager dans la bienfaisance envers nos pères et nos mères. Asbabu bulughihi tilka al-qimma idh huwa rajulun sadaq annahu barun bi ummi. Donc là, il le dit clairement. Hein? En fait, il dit les causes ou les choses qui l'ont amené à atteindre ce degré-là, ce sommet, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'il a été bienveillant envers sa maman. Non. Idh huwa rajulun sadaq. C'était un homme qui était véridique. ثالثا قد يظن الناس وهذا من جنون المثقفين يا ليتهم كانوا جهالا يا ليتهم كانوا لا يعرفون ولا يعون وكانت الفطرة قبل مع الجهل غير ملوثة إلا بالجهل الآن هي ملوثة بالجهل المشوط وبالعلم المغلوط ولا حول ولا قوة إلا بالله أن البر أن تطيع فيما تحب البر أن تطيع فيما تكره. Donc troisièmement, ici le cheikh Raslan, hafidhahullah, il va développer quelque chose qui est important. Il dit certaines personnes, et cela fait partie de la folie et de la stupidité des gens qui sont soi-disant intellectuels, al-muthaqqafin, les gens intellectuels, les intellos. Hein? Puis il dit, si seulement ils étaient restés ignorants, si seulement ils n'avaient pas atteint cette connaissance, soi-disant, cette culture générale, ce savoir, et que leur fitra était restée comme elle était, à la base, pure, et qu'elle n'ait pas été pollué par autre chose. Donc là, ici, il dit les chers, cette fitra, elle a été polluée par l'ignorance. Donc c'est une ignorance qui a été polluée par une autre ignorance, qui est murakkab, une ignorance qui est complexe. C'est-à-dire que la personne croit qu'elle sait, alors qu'elle ne sait pas. Elle croit qu'elle est cultivée, qu'elle est intellectuelle, mais en fait elle ignore qu'elle ignore. Ça, c'est une ignorance qui est murakkab. Donc ils disent que cette fitra sur laquelle ils étaient a été polluée par une autre ignorance, et maintenant elle est polluée par donc cette ignorance là extrême, cette science qui est erronée. Ils ont de la science, mais elle est erronée. Et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Il dit, dans le sens, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous protège du fait de croire que al-birr, la bonté, la bienfaisance, la bienveillance, n'est faite que dans les choses que tu aimes, dans les choses qui te font plaisir. Il dit non. La véritable bonté, la véritable bienfaisance, c'est celle dont tu vas faire preuve dans les choses que tu détestes. Dans les choses que tu détestes. C'est là la véritable bienveillance, la véritable gentillesse, la véritable bonté. Ce n'est pas dans les choses que tu aimes. D'ailleurs, ثم فصل الشيخ يقول ليس البر أن تطيع فيما تحب لأنك إذا أطعت فيما تحب فهذا هوى النفس يحملك. فليس البر أن تطيع فيما تحب، لأنك حينئذ تفعل ما تحب، وحب ما تفعل يؤزك أن تفعل ما تفعل. ليس البر أن تأتي بالأمر الذي تحب حتى تصير بذلك الأمر بارا، بل إن البر أن تطيع فيما تكره ما دام لا يغضب الله تبارك وتعالى. Donc il dit, là il détaille un petit peu, il dit, donc al-birr, la bonté, la bienfaisance, ce n'est pas celle que tu vas faire en suivant les choses que tu aimes, en allant dans le sens de ce que tu aimes. Car si tu suis ce que tu aimes, eh bien tu n'auras suivi en vérité que les désirs de ton nefs, que les passions de ton nefs. Ce sont les passions, les envies de ton âme qui t'ont poussé à faire cet acte-là. Et donc, al-birru, la véritable bienfaisance, ce n'est pas ça. Car dans ce cas-là, tu n'auras fait que ce que tu aimes. Et l'amour de certaines actions vont te pousser à les faire. Parce que tu aimes les faire. Hein? Donc, la vraie bonté, ce n'est pas le fait que tu fasses des choses que tu aimes. Donc, tu ne seras vraiment bar, c'est-à-dire quelqu'un de bon, quelqu'un de bienveillant, bienfaisant, que lorsque tu suivras les choses que tu détestes, que tu feras des choses dans des domaines, que tu feras des actes que tu n'aimes pas faire à la base. C'est là vraiment que tu deviendras quelqu'un de bon, de bienveillant. Bien sûr, à condition que ce soit des choses qui ne mettent pas en colère Allah tabarak wa ta'ala. D'accord ? ثم يقول قد تبتلى بأبوين صبيين لا يكادان يستقران على حال أبدا وأنت كالحبل المشدود بين قمتين أو كسائر على ذلك الحبل يخشى الهاوية التي قد فرغت فاها تحت قدميه بل تحت جسده كأمثال أنياب التنانين وإن فيها للظى مستعرا لا يخبو أواره لحظة من زمان. طيب. Donc il dit, il se peut que tu sois éprouvé par des parents sabiyyin. Allahu a'lam, yani dans le sens des parents immatures. Des parents immatures, irresponsables. D'accord ? لا يكادان يستقران على حال أبدا. Qui ne sont pas stables, des parents instables, hein, irresponsables, immatures. Non, il se peut qu'on soit éprouvé par ce genre de parents. Et dans ce cas-là, tu seras comme une corde tendue entre deux montagnes, entre deux sommets. T'as-y-il ? Donc Allah Alam, il parle peut-être des parents qui se disputent souvent, ou hein, et c'est comme si chacun voulait tirer les enfants de son côté, etc., etc. Allahu alam, l'intention du shir ici, il dit l'enfant est comme une corde tendue entre deux sommets. Al-muhim. Ou alors l'enfant est comme quelqu'un qui marcherait sur cette corde là, hein, et qui pourrait tomber à tout moment, taïeb, dans le vide, dans le précipice. Et en dessous de lui, il y a, il dit, Anyab Tananin, les crocs d'un dragon. Les crocs d'un dragon qui l'attendent. Wa inna fiha la ladhan musta'iran. Et il y a donc dans cette situation quelque chose qui est difficile. Il a comparé ça à un brasier brûlant. La yakhbu awaruhu, dont les flammes
ne s'éteignent pas un seul instant.
Donc là, il parle donc de l'enfant qui est éprouvé dans sa famille par des parents. Ça y est, irresponsable, immature.
Naam.
Et vous savez que l'enfant, il est touché. Il est malheureux lorsqu'il voit que ses parents ne s'entendent pas, par exemple. Ou lorsqu'il voit ses parents se disputer devant lui. L'un crie sur l'autre. L'un insulte l'autre. Ou des fois, ça peut venir même au coup. Vous voyez ? L'enfant, il est traumatisé. Même s'il ne le dit pas, il est traumatisé. Et toute sa vie, il va se rappeler ce genre de situation et d'action.
وجاهداه على أن يشرك بالله رب العالمين ما ليس له به علم أن ينظر قول رب العالمين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فجاء الأمر بصحبة بالمعروف مع الكفر مع الكفر والأبوان إذا لم يكونا كافرين فكل ذنب دون الكفر ليس بشيء ليس بشيء.
Donc l'enfant, comme on a dit, il peut être éprouvé par certains types de parents, d'accord, et ça peut être une épreuve qui est très difficile, que ce soit des parents musulmans ou non musulmans, d'accord, et même si ce sont des parents musulmans, eh bien tu leur dois un bon comportement et tu leur dois une obéissance dans le bien, bien sûr, tant que ça ne contredit pas la charia d'Allah tabarak wa ta'ala, mais tu leur dois malgré ça écoute et obéissance. Donc concernant l'enfant qui a des parents mushrik, polythéistes, qui ont bien sûr dépasser leurs limites et transgresser les limites d'Allah tabarak wa ta'ala tous les jours devant lui, devant ses yeux, il se peut même qu'il le pousse et le force à associer à Allah tabarak wa ta'ala. Il se peut même qu'il le force à aller adorer autre qu'Allah tabarak wa ta'ala sans science. Eh bien, il dit le cheikh, cet enfant-là, eh bien, qu'il médite et qu'il lise la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Luqman, verset 15, dans le sens rapproché. Et s'il te force à associer ou à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas. Mais وَصَاحِبْهُمَا mais tiens leur compagnie, hein, ici-bas, fit dunya, ma'roufa, convenablement, d'une bonne compagnie. Donc ici, Allah tabarak wa ta'ala, il a donné un ordre. Il a donné un ordre qui est le fait de bien se comporter, même si tes parents sont dans le kufr. Même si tes parents te forcent à faire du kufr ou du shirk. Dans ce cas-là, bien sûr, tu ne leur obéis pas dans cette chose. Mais hormis ça, tu leur dois quand même obéissance. Donc les deux parents, alors que si les deux parents ne sont pas des kuffars, mais au contraire des musulmans, que dire alors de eux ? Que dire alors des parents musulmans, même s'ils commettent les péchés qu'ils commettent, quel que soit le péché qu'ils font, ça sera toujours moins pire que le kufr. Ça sera toujours moins pire que le kufr. Donc du moment où Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné de bien te comporter avec des kuffars, des parents kuffars, que dire alors des parents musulmans? Subhanallah.
فإذا لم يكن الأبوان كافرين ربما لم يكونا عاصيين ولكن غاية ما هنالك أنهما ربما كانا متسلطين مثلا والأبوة والأمومة سلطة متسلطة جبارة قد يساء استغلالها في كثير من الأحايين والأمر لله من قبل ومن بعد.
Donc maintenant, si tes parents, encore une fois, ne sont pas des kuffars, il se peut qu'ils ne soient même pas des gens désobéissants, subhanallah. Mais, malgré ça, ils font preuve de sévérité. Des fois, tu as des parents qui sont dans la religion, d'ailleurs, qui ne font pas forcément des péchés, mais ils se comportent de manière très dure avec leurs enfants. Ils sont rigides, sévères, secs. C'est vrai ou pas? Autoritaires. Et ça, c'est un défaut aussi. C'est un défaut. Le parent, il se doit d'être tendre envers son enfant. Ça y est? Ou tendre quand il faut, et sévère et ferme quand il le faut, mais pas tout le temps sévère, et pas tout le temps dur ou rigide. Parce que cela, il se peut que ça éloigne l'enfant de la religion. Hein? Combien d'enfants ils ont été éloignés de la religion parce que leur père était trop dur. Trop dur. Le père, mashallah, il est à la mosquée, à toutes les prières, porte la sunna. Mais le fait que le père ait été trop dur avec l'enfant. Rares sont les moments où il était tendre avec son enfant, ou dans lesquels il a eu des mots doux. Ne serait-ce que, hein, il le prend dans ses bras, ou il l'embrasse, il lui dit je t'aime. Non, des parents ils sont comme ça, subhanallah. Donc cette autorité-là, cette tyrannie, ça je pense que c'est plus dans les générations précédentes. Nous, alhamdoulilah, notre génération, au contraire, on est un peu trop gentil. On est trop gentil, on se fait marcher sur les pieds. Hein? C'est vrai ou pas? On est trop gentil. Al-Muhim. Donc la plupart du temps, ces parents-là, yani, utilisent de leur autorité, malheureusement, dans le mauvais sens. Et tu as des parents, c'est le contraire. Lorsqu'il faut être dur, ils sont souples. Et lorsqu'il faut être souple, ils sont durs. Et ça, on le remarque souvent chez les femmes. Allahu alam. Allahu alam. On le remarque souvent chez les femmes. Il y a des choses où l'enfant, subhanallah, c'est plus fort que lui. Casser des objets, faire tomber des assiettes, renverser des verres d'eau. C'est vrai ou pas? Qui c'est qui va péter un câble à ce moment-là? Souvent, c'est la mère qui pète un câble. Hein? Elle va le frapper, des trucs de fou, subhanallah. Et le père, il est là, il regarde qu'est-ce qu'elle a. C'est un enfant, subhanallah. C'est là qu'elle est dispute. Alors que des fois, pour la religion, elle dit rien. L'enfant, il ne s'est pas levé pour soubh, mais Ali, laisse-le dormir, miskin. Laisse-le dormir. C'est pas grave. On va pas le réveiller, subhanallah. Il est petit encore. Taïeb? Alors que c'est là qu'il faut être ferme. C'est là qu'il faut que tu le réveilles. Même s'il a, il est fatigué, réveille-le. Parce que c'est une éducation et c'est une rahma pour lui. C'est ça la vraie rahma. C'est que tu le réveilles pour soubh, même s'il n'en a pas envie. C'est pas en le laissant dormir que tu vas être clément ou miséricordieux envers lui. Non, au contraire, ça sera une miséricorde qui est basée sur l'ignorance. Mais la vraie miséricorde, c'est que tu encourages et que tu même forces ton enfant à faire les actes d'adoration obligatoires. Tu dois le forcer. Comme les sahaba, ils forçaient leurs enfants à jeûner Ramadan. Et lorsqu'ils pleuraient, ils leur donnaient des jouets. De quoi les distraire. Pour qu'ils oublient la faim, subhanallah. C'est ça la vraie rahma. Taïeb. Donc il ne faut pas inverser les choses. Hein? Tu parles de quoi? Du jeûne? À partir de 7 ans, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À partir de 7 ans, tu commences à lui enseigner la prière. Avant 7 ans, non. Non. D'ailleurs. On en est où? Non. Donc le commandement tout entier appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ala qadri al-tahammuli wal-mashaqqa takoonu al-mathubatu wal-ajru fi al-dunya wal-akhira. وَاللَّهُ يُعْطِي مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْبَرُّ الْجَوَادُ وَقَدْ تُبْتَلَى بِأَبَوَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَلَى هَذِهِ السُّورَةِ وَلَكِنْ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُطِيعَ فِي الْمَعْرُوفِ. نعم. Mais il dit le Cheikh, quelle que soit l'épreuve que tu vis à cause de tes parents, des parents polythéistes, des parents instable, des parents autoritaires, des parents immatures, tout ce que tu veux. Quelle que soit la difficulté, eh bien, sache que la récompense et la rétribution sera proportionnelle à cette difficulté. À condition, bien sûr, que tu patientes. Que tu patientes. Et que tu continues, malgré ça, à bien te comporter avec eux. Donc, si tu adoptes le bon comportement avec eux, malgré le comportement que eux ils ont avec toi, eh bien sache que ta récompense sera proportionnelle à ton épreuve et à la difficulté que tu es en train de vivre. Et Allah Jalla wa Ala, il donne ce qu'il veut comme récompense, et sa récompense elle est infinie. Et c'est lui Al-Barr par excellence, le bienveillant par excellence et le très généreux. Donc bien que tu sois éprouvé par tes deux parents ou par l'un de tes deux parents, des fois tu es éprouvé que par le père ou des fois que par la mère, ça dépend, et bien malgré ça la personne doit obéir à ses deux parents, d'obéir à ses deux parents toujours dans le bien. Ata rajulun ila Abi Darda fa nantaqil ila hadith akhar. يقول أتى رجل إلى الصحابي أبي الدرداء فقال إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقها يأمرني بطلاق زوجتي. قال ما أنا أي قال أبو الدرداء ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله كما في الصحيح أو كما في صحيح الترغيب والترهيب. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. هذه رواية أخرى. إن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال ربما قال سفيان إن أمي وربما قال إن أبي. يعني في شك من الرواة، ربما يقول إن أمي أو إن أبي، الله أعلم.
وصح الألباني الحديث في الصحيح سنن الترمذي وأخرجه ابن ماجه وهو في صحيح سنن ابن ماجه. طيب دونك لا il mentionne un autre hadith dans le même chapitre. Il dit donc là ces hadiths là ils sont pas mentionnés par le Bukhari, c'est le cheikh Raslan ici qui les rapporte. طيب il dit un jour un homme est venu voir le compagnon Abu Darda radiyallahu anhu. Cet homme-là, il lui a dit mon père m'a marié, mon père m'a fait épouser une femme, et maintenant et aujourd'hui il m'ordonne de la répudier, il m'ordonne de la divorcer. D'accord, qu'est-ce qu'il lui dit à Abu Darda? Il lui dit, ce n'est pas à moi de t'ordonner de désobéir à tes parents. Mais ce n'est pas à moi non plus de t'ordonner de répudier ta femme. Voyez, il ne se mouille pas, ni il lui a dit. Hein? Non, mais ça je conseille à tous les imams de faire ça. Quand il y a des conflits des fois entre les époux. Des fois, l'imam, il se doit de faire l'intermédiaire. Ce n'est pas à moi. Ni je te dis de divorcer, ni je te dis de rester. Par contre, je te dis ce que le prophète, il a dit. Ça, ça et ça. D'accord? Il lui a dit. Il lui a dit. Par contre, je vais te dire ce que j'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le père est la porte, comment on pourrait traduire, la porte centrale du paradis. Le père est la porte centrale du paradis. Donc préserve cette porte là si tu le veux, ou délaisse-la. À toi de choisir. Si tu veux passer par cette porte-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, si tu ne veux pas, reste avec elle. Non, allez. Donc, après, bon, il faut revenir au charh du hadith. Certains, ils ont laissé le hadith dans son sens apparent. Donc, la porte centrale, eh bien, elle sera réservée pour ceux qui ont obéi à leurs parents, etc. D'autres ont dit que cela voulait dire que la plus grande cause d'entrer au paradis, c'est l'obéissance aux parents. La plus grande cause d'entrer au paradis, après bien sûr, tawhid, c'est la bienveillance envers les parents. Non. Donc le hadith rapporté par Ibn Hibban, il est rendu et authentifié par l'imam Al-Albani. Puis on a une autre version qui est à peu près identique, dans laquelle cet homme-là est venu voir Abu Darda, ou un homme est venu voir Abu Darda, et il lui a dit, j'ai une femme et ma mère m'ordonne de la répudier. Donc on a vu que dans la première version, c'est mon père. Dans la deuxième, c'est ma mère. Al-Muhim, il lui dit à Abu Darda, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le père est la porte centrale du paradis. Donc si tu veux, délaisse-la, gâche-la, délaisse cette porte-là, et si tu veux, préserve-la. Fait en sorte, yani, d'en profiter. Donc ce hadith, il a été rapporté par Tirmidhi aussi, qui a dit que c'est un hadith qui est hassan, sahih, authentique. Et il y a un doute ici dans le terme mon père et ma mère. D'accord? Donc là, en fait, il nous fait comprendre que le rapporteur a un doute. Allahu a'lam. Mais le hadith, dans tous les cas, est authentifié par Al-Albani. Et le fait qu'il y ait cette divergence entre la mention de la père de la mère et la mention du père n'a pas de répercussion sur yani la validité du hadith, n'a pas de répercussion, parce que le jugement qui nous intéresse ici, c'est le fait justement d'obéir aux parents par rapport à la répudiation. Lorsque ton père ou ta mère t'ordonne de répudier ta femme, est-ce qu'il est obligé d'obéir ou pas? Est-ce que tu es obligé? D'accord?
Est-ce que c'est bon?
طيب فقوله أضع من الإضاعة والإضاعة ضد الحفظ.
Donc lorsqu'il dit فأضع ذلك الباب, c'est-à-dire c'est le contraire de préserver. D'accord, يعني délaisse ou gâche, hein, gâche cette porte-là si tu veux, ou préserve-la comme tu veux.
إذن عمر رضي الله عنه لما تزوج ابنه
أو نعم ابنه عبد الله.
هذا حديث أو قصة أخرى.
عمر لما تزوج ابنه عبد الله ابن عمر
امرأة فأحبها, أحبها ابن عمر امرأته, فشغلته عن العبادة والذكر وربما عن الجهاد نوع الشغل, فأمره رضي الله عنه بتطليقها فأبى عبد الله, أبى عبد الله أن يطلقها, فذهب عمر رضي الله عنه لما لم يمتثل له ولده فرفع القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها.
فهذا أمر
ممن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر قال كان تحتي امرأة أحبها. فهذا هو الحديث يعني بنصه, كان تحتي امرأة أحبها, وكان عمر أي كان أبي يكرهها. فهذا دليل على جواز ذكر الأب باسمه. قال وكان عمر وهو أبوه, وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت, أبا عبد الله. فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها, طلقها. الحديث صحيح, أخرجه أبو داود والترمذي وعند ابن ماجه وهو في الصحيح وأحمد والحاكم. فهذا أمر لا عبث فيه, أمر هو الجد كله لا هزل فيه بحال.
طيب غي ديفلوب encore plus jusqu'où ça peut aller l'obéissance aux parents concernant toujours le couple. Il, Omar, lorsque son fils Abdullah s'est marié, il a épousé une femme, son fils. Une femme qu'il aimait. Donc une femme pour qui il ressentait hein, des sentiments. Il aimait sa femme. Et cette femme-là, et l'amour qu'il avait pour elle, l'a quelque peu éloigné de l'adoration, du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et peut-être même du combat, de la lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voyez. Et donc son père Omar lui a ordonné de la divorcer. Voyez. Donc là attention, c'est Omar, d'accord, c'est pas mon père. C'est pas, d'accord, là c'est Omar. Aujourd'hui, yani, lorsque les parents des fois disent à son fils ou à sa fille de demander le divorce, très souvent c'est pas pour des choses importantes, hein, très souvent c'est pas pour des choses importantes. Des fois c'est parce que il y a eu une embrouille entre eux, d'accord, il y a eu une embrouille entre la mère et la belle-fille, entre le père et le beau-fils, les embrouilles, yani, des fois même liées à l'argent. Là, ils vont dire à leur fils, divorcez-la, mon fils. Vous voyez? Donc là, on parle de Omar. Lorsqu'il a vu que son fils était éloigné de l'adoration d'Allah, du rappel d'Allah et du combat dans le sentier d'Allah, il lui a ordonné de la divorcer. Comme l'a fait le prophète, même. Quel prophète qui a ordonné à son fils de répudier sa femme? Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Il a obéi ou pas? Il a obéi. Pourquoi il lui a demandé ça? Parce qu'il a vu. Pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons. Mais il a refusé Abdullah. Il a refusé. D'accord? Il a refusé de la divorcer. Donc qu'est-ce qu'il a fait son père? Omar, il est parti voir le juge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit que son fils donc ne voulait pas l'écouter et lui obéir. Donc il a transmis l'affaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abdullah de la répudier. Donc là on va voir le hadith dans les termes exacts du hadith. Donc il dit Ibn Omar, donc c'est Abdullah qui raconte, hein. Il dit, j'avais une femme que j'aimais. Regardez, subhanallah, comment ils étaient clairs dans leurs propos. Il n'y a pas de honte à dire que tu aimes ta femme. Subhanallah, un sahabi, un jalil comme Ibn Omar, j'ai dit, j'avais une femme que j'aimais, subhanallah. C'est lui qui raconte. J'avais une femme que j'aimais, mais que Omar détestait. Et là, c'est la preuve aussi que tu as le droit, donc, comme on a vu, lorsque tu parles de ton père, eh bien, de mentionner son prénom. Il n'y a pas de mal, inshallah. Que Omar détestait. Et donc, mon père m'a dit, divorce-la. Mais j'ai refusé. J'ai refusé. Et Omar est parti voir par la suite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est plaint auprès de lui. Il a dit, voilà, mon fils ne veut pas m'obéir quand je lui ai demandé de divorcer de sa femme. Donc après, il a dû lui dire comment elle était et pour quelle raison. D'ailleurs, même si Allah tabaraka wa ta'ala, il se peut aussi qu'il lui ait révélé l'état de la femme sans qu'il lui dise. Et là, le prophète, il m'a dit, donc Ibn Omar dit, le prophète m'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, talliqha, divorce-la. Divorce-la. Donc là, il n'avait plus le choix. Classe, ne paye pas. Le prophète, il te dit, divorce-la, divorce-la. Il te dit, marie-toi avec elle, marie-toi avec elle. Le prophète, il sait ce qui est le mieux pour toi. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc le hadith, il est authentique. Il est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et également Ibn Majah dans le Sahih et Ahmed al-Hakim. Donc là, attention les frères, c'est un ordre qui vient de la part de quelqu'un qui n'ordonne pas des choses dans le vent. Hein, ou pour des choses futiles. S'il lui a ordonné de se séparer de sa femme, c'est pour des bonnes raisons. C'est Omar. C'est Omar. D'accord? Donc ceux qui ont des enfants, ils se doivent de regarder ça. De regarder le bien de leurs enfants. S'ils voient que la personne avec qui son fils ou sa fille est mariée est une mauvaise personne pour sa religion. Parce que des fois, ça arrive qu'Allah nous en préserve, on se trompe sur la personne. Des fois, la personne se montre sous ses meilleurs jours. Durant la muqabala. Durant la muqabala, c'est la personne parfaite ou la femme parfaite. Subhanallah. Hein, il vient avec des fleurs. Ah, mashallah, il a ramené des fleurs, il a ramené des gâteaux, du thé. La fille, elle ne parle pas, yani, tu n'entends pas sa voix. Quand elle parle, elle parle doucement. Mashallah, elle aussi. Hein? Le jour où ils sont mariés, subhanallah, elle change de voix. Oh. C'est plus la même fille. C'est vrai ou pas? Le jour où elle a emménagé avec lui, tu entends parler, c'est pas là, on dirait un mec du quartier. C'est du vécu, les frères, pas moi. Mais c'est du vécu. Il y a des frères qui l'ont vécu, non? Wallah, ils l'ont vécu. Le jour de la muqabala, subhanallah, c'est. La femme parfaite, le jour où ils ont emménagé, ça y est. Donc le père ou la mère, il doit faire attention à ça. S'il voit vraiment que... Et des fois, la personne, elle est touchée dans sa religion. Ça va affaiblir sa foi. Et puis petit à petit, tu la vois, elle s'éloigne de la religion, petit à petit. À cause de son mariage. Et ça, le parent doit le détecter le plus tôt possible. Avant qu'il y ait des enfants au milieu. S'il y a des enfants au milieu, après c'est compliqué. D'accord ? C'est l'heure ?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
طيب il y a combien entre les 5 minutes ou la 10 minutes 10 ثم يقول العوام ابن حوشب رحمه الله يقول كما اخرج الاصبهاني بسند حسن وهو موقوف على العوام يقول نزلت أو نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر فخرج رجل يعني من القبر رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان فنهق 3 نهقات ثم انطبق عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا فقالت امرأة ترى تلك العجوز قلت ما لها قالت تلك أم هذا قلت وما كانت قصته قالت كان يشرب الخمر أي كان هذا الابن يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب الخمر فيقول لها إنما أنت تنحقين كما ينحق الحمار فمات بعد العصر مات بعد العصر قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم أعوذ بالله فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر الحديث حديث حسن موقوف كما قال الألباني رحمه الله في الصحيح ترغيب والترهيب. نعم. Donc on va juste raconter le qissa et au prochain cours bi'inna ta'ala on développera un peu ce que le cheikh il a dit dessus inchallah. Juste on va lire le récit ici. Donc le récit il est rapporté par un certain Al-Awwam ibn Hawsham rahimahullah ta'ala. طيب. Et il dit comme cela a été rapporté par l'imam Al-Asbahani d'une chaîne de transmission qui est correcte, bonne. Et le récit, il s'arrête à Al-Awwam, il est mawquf. Dans le sens, il est même maqtou', je dirais. Parce que lorsque le hadith, il s'arrête à un tabi'i, on dit il est maqtou'. D'accord ? Il n'est pas mawquf, il est maqtou'. Donc la parole, c'est la parole de Ibn Hawsham, tabi'i. Il dit ce tabi'i, je suis descendu une fois dans un hay, un quartier. D'accord ? Et ce quartier-là, à côté de lui, il y avait un cimetière. Lorsque l'heure de l'Asr est passée, une tombe s'est ouverte. Il a vu une tombe s'ouvrir. Puis est sorti de cette tombe-là un homme qui avait la tête d'un âne et le corps d'un humain. A'oudhu billah. Et lorsqu'il est sorti, il a fait trois fois le son d'un âne. Comment on dit brer? Un âne, qu'est-ce qu'il fait? Il brée. C'est ça? Donc il a brée trois fois. Il a fait le son que l'âne y fait trois fois. Vous connaissez tous le son d'un âne. Puis la tombe s'est refermée sur lui. Donc il est sorti de la tombe, il avait la tête d'un âne, il a gueulé trois fois comme un âne, et la tombe s'est refermée sur lui. Puis il a vu une vieille femme. Il a vu une vieille femme qui a assisté à la scène aussi, qui était en train de tisser de la laine. Et là, une autre femme, a dit à Al-Awwam, elle lui a dit, tu vois cette vieille femme là? Tu la vois, Hadil Ajouz? Il a dit, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a cette femme? Elle lui a dit, eh bien cette femme là, c'est la mère de celui que tu as vu. C'est la mère de cette personne là qui est sortie de la tombe avec une tête d'âne. Puis, la tombe se refermait sur lui. Eh bien c'est sa mère. Il lui a dit, c'est quoi son histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle lui a dit, son fils buvait de l'alcool. Son fils, il buvait de l'alcool. Et lorsque son fils, il sortait de chez sa mère pour aller boire, sa mère lui disait, oh mon fils, oh mon cher fils, ya bounay. Donc regardez, subhanallah, l'expression qu'elle a utilisée, ya bounay, oh mon fils, mon cher fils que j'aime. Crains Allah, ittaqillah. Jusqu'à quand tu vas boire de l'alcool? Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Regardez ce qu'il lui a répondu. Il lui a répondu, tu ne fais que brère comme les ânes. Subhanallah. Imaginez-vous, sa mère, elle veut son bien. Elle veut son bien, elle lui parle gentiment. Elle lui dit, mon fils, jusqu'à quand tu vas boire? Comme si aujourd'hui, une mère dirait à son fils, jusqu'à quand tu vas fumer? Jusqu'à quand tu vas rester dehors, en train de dealer, en train de trafiquer? Jusqu'à quand? Et le fils lui répond quoi? Quand est-ce que tu vas t'arrêter d'aboyer, audibillah, mathalan? T'arrêtes pas d'aboyer. Lui, il lui a dit, t'arrêtes pas de brer comme un âne. Eh bien, il est mort. Ce jour-là, il est mort après l'Asr. Donc il est sorti, il est mort après l'Asr. Et c'est pour ça que tous les jours, sa tombe, elle s'ouvre après l'Asr. Il sort, il a une tête d'âne, et il gueule trois fois comme un âne, et la tombe se referme sur lui. Donc le hadith, il est, la chaîne, elle est bonne. La chaîne, elle remonte jusqu'à Al-Awwam ibn Hawshab, qui est une personne dont on prend le hadith. Sauf que la chaîne, elle s'arrête à lui. Donc c'est lui qui raconte. Et cela, donc, a été rendu bon et valide, certifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, wa naktafi bihada al-qadr, والعلم عند الله جل وعلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً.